DW. Info Matin.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette demi-heure d'information sur la DW. Info Matin vous est présenté par Fréjus Kenom et Salé Monamilongo. Bonjour Fréjus.
Bonjour Salé Monamilongo, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, en Guinée, alors que la campagne électorale tend vers sa fin, les avis divergent sur le bilan de 10 ans de pouvoir d'Alpha Condé.
Au sommaire également, au Mali, les espoirs exprimés par la CEDEAO reçoivent divers échos au sein de la population.
Nous irons ensuite à Kigali où certains réfugiés burundais hésitent de regagner leur pays. Visite dans les locaux de Radio Inzamba où travaillent des journalistes exilés.
Et dans un peu plus d'un quart d'heure, vous retrouverez Ali Farad pour la page sportive. Aujourd'hui, retour sur le scandale des abus sexuels impliquant le président de la Fédération haïtienne de football, Yves-Jean Barthes. Info Matin, c'est d'abord le tour d'actualité internationale avec vous, Fréjus Kenam.
Dans la lutte contre la Covid-19, faudrait-on ou devrait-on miser sur une immunité collective en laissant les populations s'infecter massivement? Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé dit non. L'OMS met en garde contre une circulation incontrôlée du coronavirus et considère une telle stratégie comme étant scientifiquement problématique et contraire à l'éthique. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie et encore moins à une pandémie. C'est scientifiquement et éthiquement problématique en permettant à un virus dangereux que nous ne maîtrisons pas encore complètement de circuler librement. Cela manque simplement d'éthique. Ce n'est pas une option. Mais nous avons plusieurs options, des choses que les États peuvent faire et sont en train de faire pour endiguer la transmission du virus et protéger des vies.
Et selon l'université américaine Johns Hopkins, dont nous avons consulté le site il y a une heure environ, 37 801 975 cas positifs au coronavirus sont enregistrés dans 189 pays ou régions du monde. 1 080 682 personnes sont décédées.
Aux États-Unis, où il y a le plus grand nombre de cas, le président Donald Trump a été testé négatif plusieurs jours de suite.
Oui, c'est ce qu'indique le médecin personnel du président qui a suivi des soins après s'être infecté au coronavirus. Sian Conley estime que Donald Trump n'est plus contagieux. Peu après cet avis de son médecin, le président Trump a rejoint les estrades de campagne électorale et s'est rendu en Floride. Devant des partisans à Sanford, il a affirmé se sentir tellement fort et en bonne santé, il s'est abstenu de porter un masque. Plus de 10 millions d'Américains ont déjà voté à l'élection présidentielle du 3 novembre par courrier ou en vote anticipé, selon un comptage publié hier. De nombreux Américains se ruent sur le vote par correspondance pour éviter de voter en personne en pleine pandémie de coronavirus. Toujours aux États-Unis et à 3 semaines de la présidentielle, l'audition de la présidente de la Cour suprême, Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump, a démarré au Sénat. La juriste et conservatrice a déclaré devant la commission justice qu'elle avait conscience que les fonctions qu'elle occupera sont des fonctions de justice. Les décisions politiques appartiennent au domaine des instances politiques élues par le peuple et qui répondent de ce peuple, a laissé entendre la magistrate de 48 ans.
Venezuela, le président Maduro rebaptise une autoroute qui portait le nom d'un colonisateur.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a en effet déclaré initier un processus de décolonisation en remplaçant hier le nom de l'autoroute principale de Caracas, Francisco Fajardo, par le nom d'un célèbre chef indigène. Francisco Fajardo est le nom d'un colonisateur génocidaire, a estimé le président. Nicolas Maduro a fait cette annonce lors de la célébration du 528e anniversaire de la résistance indigène. C'est ainsi que le mouvement chaviste appelle le jour de la découverte des Amériques par Christophe Colomb le 12 octobre 1492.
Et en Libye, l'ONU exhorte les dirigeants à privilégier l'intérêt national.
Oui, Stéphanie Williams, émissaire par intérim des Nations Unies en Libye, a affirmé hier que le dialogue libyen sous l'égide de l'ONU, prévu en Tanzanie, serait ouvert aux dirigeants ne visant pas de poser postes gouvernementaux, mais pensant d'abord à leur pays. Stéphanie Williams a eu une rencontre avec le président tunisien Kais Saied. Le dialogue de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence, va se poursuivre début novembre en face à face. Il réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk et du Haut Conseil d'État, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU, représentant la diversité du pays. Et puis, la police biélorusse a menacé de recourir aux balles réelles pour mater la contestation dans le pays, alors que l'Union européenne se disait hier prête à sanctionner le président Loukachenko pour la répression du mouvement de protestation. Dimanche, la police a réprimé violemment le grand rassemblement hebdomadaire de l'opposition à Minsk, déployant canons à eau et grenades assourdissantes contre la foule. Cette intervention est réputée la plus brutale depuis des semaines. Quelques 600 manifestants auraient été arrêtés selon un groupe de défense des droits humains.
DW.
Nous poursuivons ce journal avec la Guinée où l'élection présidentielle aura lieu le dimanche prochain. Candidat à sa propre succession, le président Alpha Condé voit ses partisans vanter les acquis de sa gouvernance des 10 dernières années.
Oui, Salé, il qualifie son bilan de positif dans plusieurs domaines avec notamment les infrastructures routières, l'électricité et le secteur des mines. Par contre, les avis divergent au sein des populations qui estiment que le président n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple. Bangali Condé.
Considéré comme étant le premier président démocratiquement élu depuis l'indépendance, Alpha Condé dirige la Guinée depuis 2010. Ses militants soutiennent qu'il a posé les vraies bases du développement à travers les actions réalisées dans plusieurs domaines. Ali Badara Condé, jeune cadre de la coalition au pouvoir, le RPG arc-en-ciel.
Si l'autoroute est limitée en 2010 à 16 km de Kaloum, aujourd'hui l'autoroute est arrivée à Koya à 50 km de Kaloum. Et dans les mines, il y a eu au moins 17 000 emplois qui ont été créés directement. Et avec les sous-traitances, nous constatons vraiment 50 000 emplois aussi ont été créés. Sur le plan de l'électricité, en 2010, la Guinée n'avait que seulement 183 mégawatts. Avec la construction de barrages de Kalita, Swapiti, Amaria et quelques micro-barrages, nous constatons que nous avons une capacité à peu près de 1400 MW.
Cependant, plusieurs manifestations ont été enregistrées à travers le pays pour le manque d'électricité. La dernière est celle de Koulabouni le 5 octobre 2020 dans la préfecture de Boké au nord-est de Conakry qui a fait un mort et plusieurs blessés. Des jeunes rencontrés dans les rues de Conakry affirment que le président Alpha Condé n'a pas créé assez d'emplois pour la jeunesse. Il déplore aussi la montée de l'ethnocentrisme en Guinée.
Avec tout ce qu'il a fait, les hôtels, tout ça, l'on peut apprécier. La partie négative aussi. Bon, l'ethnocentrisme en un mot, je peux prendre ça quand même.
Bon, selon le bilan que j'ai pu retenir, bon, le professeur Alpha Condé, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, quand même, il a fait son mieux.
Ce qu'on reproche maintenant, le président Alpha Condé, quand il prend la jeunesse, il n'y a pas tellement d'employabilité, il n'est pas employé beaucoup de personnes durant ces 10 années.
Par ailleurs, les victimes des événements du 26 septembre 2009 disent être toujours à l'attente d'un procès équitable, ce malgré les dates et des promesses faites par le régime Condé durant ses 2 mandats. Bangali Kona Conakry pour la Deutsche Welle.
Guinée toujours, l'opposition a chiffré lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé, chiffre dénué de tout fondement selon le gouvernement.
Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a en effet publié une liste des victimes, selon lui, de la contestation au nombre de 90, comme vous venez de le dire, ça l'est 90. Depuis le 14 octobre 2019, 92 en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Au moins 45 ont été tués par balle, a dit le collectif réunissant des partis, des syndicats et des membres de la société civile. Albert Damatan Camara, ministre de la sécurité, a refusé de se prêter à une comptabilité macabre servant, dit-il, à une exploitation politique.
Restant toujours en Afrique de l'Ouest, Frégis, direction le Mali, au cours d'une visite à Bamako, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, a dit avoir bon espoir que les autorités de transition maliennes respectent leurs engagements.
Et ces propos ont été tenus alors que tous les organes de la transition n'ont pas encore été mis en place. Il reste par exemple le Conseil national de la transition qui fait office de parlement. Des propos conciliants qui pourraient marquer la fin de la crise entre le Mali et la CEDEAO. Plus d'explications ici avec Eric Topona.
Le fait de n'avoir pas formellement mis un terme au mandat de Goodluck Jonathan donne une idée de ce qu'ils veulent.
Ibrahima Khan, chercheur en charge des questions régionales à l'OZIWA, Open Society Initiative for West Africa, rappelle que le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, le Nigérian Goodluck Jonathan, est toujours susceptible d'intervenir, même si les déclarations du président Nana Akufo-Addo marquent un rapprochement entre les deux parties.
Ils sont quand même arrivés à ébranler un peu la junte militaire. C'est quand même un bon élément pour la région que de savoir que l'institution régionale a un œil sur les militaires parce qu'ils disent vouloir remettre le pouvoir, mais on sait qu'ils essaient aussi d'être le plus rusé possible.
Quant au juriste Ibrahim Ikassa Maïga, il conseille aussi la prudence. Celui-ci appartient au mouvement Espoir Malikoura, membre du mouvement du 5 juin, qui a exigé la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Les hésitations, les atermoiements que nous avons vécu avec les nouvelles autorités, il y a véritablement à être prudent dans notre appréciation. Et c'est les faits qui parleront plus que les mots eux-mêmes.
Le sociologue Mohamed Amara insiste pour sa part sur l'impératif d'organiser les prochaines élections afin d'avoir au Mali un pouvoir légitimement élu.
Maintenant, la question qui se pose et qui me paraît vraiment importante, c'est la question de préparer ces élections présidentielles et législatives pour qu'elles soient propres, transparentes et avec peu de contestations possibles. La difficulté principale, c'est la préélection.
Lors de son séjour à Bamako, le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral pour arriver aux élections présidentielles et parlementaires dans le délai indiqué, soit 18 mois, et surtout dissoudre au plus vite le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, créé le 18 août dernier après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta.
À vous la parole.
Bien sûr, vous avez remarqué que ce n'est pas à vous la parole, c'est juste donc une petite respiration dans la suite de ce journal.
Merci beaucoup Frégis. Il est 9h12 dans nos studios, même heure à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, direction RDC, où la rentrée scolaire a eu lieu hier, lundi, après 6 mois de fermeture des classes pour cause de Covid-19. Et alors que se pose toujours la question de la gratuité de l'enseignement primaire décrétée par le président Félix Tshisekedi en septembre 2019.
Au Nord Kivu, les enseignants de la FOSINAT, Force syndicale nationale, pensent que cette mesure de gratuité ne sera pas d'application car l'État a plusieurs fois montré sa défaillance. Ils disent qu'ils ne vont pas aller en grève. En revanche, malgré la lettre circulaire du ministre, ils continueront à recouvrer leurs primes auprès des parents pour qu'ils donnent des enseignements de qualité aux enfants. Suivez Bas Ala Chamavu Innocent, le président de la FOSINAT au Nord Kivu, au micro de Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
Ce même ministre-là, il n'y a pas un mois sur la voie des ondes, il a crié qu'il n'y a pas la gratuité, les parents vont continuer à payer les frais de motivation à l'école secondaire. Ce même ministre qui a dit ça aux médias, il nous envoie une circulaire à la veille de la rentrée scolaire disant que tous les frais de motivation sont supprimés à tous les niveaux, à l'école maternelle, primaire comme à l'école secondaire. Cette circulaire, nous l'avons foulée aux pieds, nous ne la respecterons pas parce que c'est une circulaire qui est venue seulement mettre la poudre au feu dans le secteur de l'éducation. Je veux dire à ces ministres qu'ils n'escamotent pas l'article 36 de la Constitution qui stipule que le travailleur doit avoir un salaire décent. Alors qu'il commence par matérialiser l'article 36 de la Constitution, c'est après avoir donné un salaire décent à ce travailleur-là, cet enseignant de l'école maternelle, primaire et secondaire, c'est là qu'ils vont maintenant nous parler de la gratuité. Et je vais leur rappeler que tout ce qu'on a demandé, c'était, ils ont dit que nous ne puissions pas demander les frais de motivation parce qu'ils vont donner le deuxième et le troisième palier. Ça fait 15 mois, ils n'ont rien donné. Ils ont dit qu'ils vont payer tous les enseignants NI et NEP. Ça fait 15 mois, ils n'ont payé personne. Nos enfants sont en train de souffrir, tous ces politiciens-là. Ont leurs enfants dans de bonnes écoles privées, ont leurs enfants à l'étranger. Nous sommes dans des écoles publiques. Ce sont nos enfants, nous les pauvres, qui étudient dans des écoles publiques. Alors ces enfants n'ont plus droit à l'éducation. Ça, nous ne comprenons pas. C'est pour cette raison que nous disons à ces autorités, nous disons bien cette circulaire est non-événement dans le secteur de l'éducation ici au Nord Kivu.
C'était Baala Chamavou Innocent, le président de la FONISAT au Nord Kivu, qui est la force syndicale nationale de l'enseignement. RDC encore, Yuan Shia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, fera ce mardi une présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il sera, entre autres, question de la pandémie du COVID-19 et de la prévention des conflits dans la région.
Tout à fait. Les pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région se préparent pour le 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Sommet prévu le 19 octobre prochain.
Vous écoutez la DW.
Fin août dernier, un premier groupe de 2600 Burundais réfugiés au Rwanda depuis avril 2015 est rentré dans son pays grâce à la coopération de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Selon le ministre rwandais des Affaires chargé des réfugiés, plus de 11 000 autres se sont fait inscrire pour retourner au Burundi.
Oui, mais d'autres hésitent toujours de rentrer car selon eux, la situation politique n'a pas changé au Burundi. C'est par exemple le cas des journalistes burundais de la radio Inzamba créée en juillet 2015 et qui diffuse des programmes critiques vis-à-vis du pouvoir burundais. C'est un reportage de Étienne Gatanazi, notre correspondant à Kigali.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi.
Chaque jour du lundi au samedi, entre 17h et 18h, Franck Kadze et ses autres collègues journalistes se succèdent au micro de la radio Inzamba à Gatekakawe, une radio en exil qui informe principalement sur l'actualité burundaise.
Les affrontements entre l'armée burundaise et les rebelles
du... Différents aspects de la vie politique du pays sont abordés chaque jour et Désiré Atungimana, le rédacteur en chef de la radio Inzamba, est très clair sur ce point. Pour lui, ce serait trop dangereux de retourner au Burundi.
On continue d'emprisonner les journalistes, on continue de fermer les radios étrangères. Et si on se réfère de ce qui s'est passé quand on était au pays, quand on a été chassé, quand nos médias ont été brûlés, rien n'a changé. Alors, oser rentrer, c'est se suicider.
Suivez les émissions de la radio Inzamba.
Bella Gloria Akinore est une autre journaliste présentatrice du journal en Kirundi. En 2015, elle travaille pour la radio Isanganiro. Parmi les raisons qui la poussent à ne pas rentrer chez elle, il y a les commentaires des auditeurs qui l'accusent de vouloir nuire au Burundi.
Par exemple, quand moi je présente le journal, il y a des commentaires qui disent « Pourquoi tu t'es rangé sur le rang des putschistes, sur le rang des gens qui sont contre le pouvoir, tu t'es mis dans l'opposition ?»
Selon Désiré Atungimana, le rédacteur en chef, ses collègues seraient arrêtés s'ils rentraient au Burundi.
Nous avons même des informations que les noms de ces journalistes burundais qui sont en exil sont affichés presque partout dans des bureaux des hauts gradés, la police de l'air et des frontières, des étrangers. À la frontière, il y a des listes.
Les familles de ces journalistes, en l'occurrence celle de Bella Gloria, sont également conscientes du sort que leur réserverait le pouvoir burundais une fois rentré.
Des feedbacks de ma famille qui m'ont dit non, reste là. Je ne veux pas que tu rentres parce que je ne vais pas te voir torturé, je ne vais pas te voir comme un cadavre qui se balade dans la rue.
Entre-temps, le camp de Mahama dans l'est du Rwanda se vide doucement et à ce jour, seuls 2600 réfugiés sont rentrés parmi les plus de 60 000 qu'héberge le Rwanda. Étienne Gatanazi à Kigali pour la Deutsche Welle.
Merci Étienne. Au Rwanda toujours, la justice internationale doit décider si le financier présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, détenu en France, doit être remis directement à Arusha en Tanzanie pour y être jugé ou passer d'abord par les Pays-Bas pour un examen médical.
La Cour de cassation française a validé le 30 septembre dernier la remise de M. Kabuga au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux chargé d'achever les travaux du tribunal international, du tribunal pénal international pour le Rwanda. Félicien Kabuga a été arrêté, on le rappelle, en mai, près de Paris, après 25 ans de cavale.
Rendez-vous sur Facebook. DW Afrique.
En plus bref, des milliers de personnes continuaient à manifester hier lundi dans plusieurs grandes villes du Nigeria après une semaine de mobilisation contre les violences policières où deux nouveaux manifestants ont retrouvé la mort.
Depuis plus d'une semaine, des centaines de Nigérians et notamment des jeunes descendent chaque jour dans les rues pour réclamer la dissolution de la SARS, une unité spécialisée dans la lutte contre la criminalité. Accusés de racketter la population, d'arrestations illégales, de tortures et même de meurtres.
De nouveaux corps de migrants ont été repêchés en Méditerranée après le naufrage dimanche d'une embarcation au large de la Tunisie, portant le bilan des victimes à 13 morts et 9 disparus.
Oui, d'après le porte-parole du tribunal de Sfax, Mourad Turki, 11 corps avaient été retrouvés lundi à la mi-journée et 2 autres l'ont été dans l'après-midi. Le bateau transportait 29 personnes, dont 2 Tunisiens et des personnes originaires de divers pays d'Afrique subsaharienne, selon les propos des survivants rapportés par M. Turki à l'agence France Presse.
DW. Le sport.
En Haïti, le scandale des abus sexuels autour d'Yves Jean Barthe continue. La semaine dernière, nous évoquions la présence du président de la Fédération haïtienne de football au centre FIFA Gol du pays. Malgré sa suspension, Yves Jean Barthe est allé à la rencontre des nuits des joueuses dont il aurait abusé. Il tenterait de les dissuader de témoigner en promettant de les envoyer aux États-Unis. Aujourd'hui, cette situation... Nous parlerons du chantage au visa que Yves Jean Barthe exerce sur les joueuses à et l'opacité de l'enquête de la FIFA, comme nous dit ici Ali Farhat.
Accusé d'avoir abusé sexuellement de jeunes footballeuses, Yves Jean Barthe, le président de la Fédération haïtienne de football, a été suspendu le 25 mai dernier par la commission d'éthique de la FIFA pour une durée de 90 jours. Selon diverses sources en Haïti, Yves Jean Barthe continuerait, malgré sa suspension, à se rendre la nuit au centre FIFA Gol, le lieu même où les joueuses auraient été violées. Il y aurait rencontré des footballeuses et leur aurait promis monts et merveilles, comme par exemple la possibilité d'aller jouer aux États-Unis si elles refusaient de témoigner contre lui. Ces allégations tournent en ridicule le processus de suspension mis en place par la FIFA, qui a l'obligation de garantir que l'enquête menée par sa commission d'éthique reste exempte d'ingérence et d'intimidation de témoins. Ancien directeur du centre FIFA Gol, situé à la Croix des Bouquets, à 12 km au nord-est de la capitale Port-au-Prince, Antoine Doré trouve cette situation plutôt opaque.
Enquête à mener.
Il y a une enquête de la FIFA, mais on n'y comprend rien. Même si vous n'êtes pas enquêteur, même si vous ne saisissez pas tous les détails, vous avez déjà vu des films, des séries télévisées, et vous avez une idée de la manière dont une enquête est menée. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile de comprendre comment fonctionne la FIFA.
Difficile, vous comprenez tout. Ah oui.
D'autres allégations font état de la confiscation de 17 passeports de joueuses par Yves Jean Barthe, des joueuses qui auraient témoigné contre lui. Selon un officiel sous couvert d'anonymat, des alliés de Jean Barthe seraient entrés dans un bureau à la Fédération où les passeports des joueuses sont habituellement conservés et ils en ont pris 17 alors que le responsable régulier du bureau était absent. L'officiel en question ainsi qu'Antoine Doré ont déclaré avoir informé la FIFA de la confiscation des passeports qui est illégale. Pour Antoine Doré, c'est là un moyen de pression d'Yves Jean Barthe sur les joueuses.
Et Machanda, il y fait avec visa.
Dadou Jean Barthe fait du marchandage avec les visas. Généralement, c'est lui qui garde les passeports des joueuses. Et quand une joueuse veut avoir son passeport, c'est très compliqué. Dadou Jean Barthe lui dit que pour qu'elle obtienne son passeport avec le visa, elle doit coucher avec lui. C'est la stratégie qu'il utilise pour abuser les joueuses.
Pour l'abuser, elle voulait un passeport.
Pour Evan Nierman, le porte-parole d'Yves Jean Barthe, toutes ces accusations sont fausses. D'une part, il assure que le président de la Fédération haïtienne de football n'a pas quitté son domicile en raison de la pandémie de la Covid-19 et donc il n'a pas pu se rendre au centre FIFA Gol. D'autre part, je cite, « ce sont des mensonges ridicules de la part de détracteurs qui fabriquent des allégations pour dénigrer le docteur Jean Barthe en espérant que les médias étrangers naïfs les répéteront et amplifieront de fausses informations ». Pour rappel, la suspension d'Yves Jean Barthe par la commission d'éthique de la FIFA a été prolongée de 90 jours supplémentaires en août dernier.
Vous retrouverez Ali Farhat ce soir dans le journal de 17h temps universel pour d'autres nouvelles sportives.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
Ce matin, notre reportage Afrique bouge nous amène à Yaoundé où du vin made in Cameroun fabriqué à base de pastèques. C'est la trouvaille d'un jeune ingénieur agronome camerounais de 30 ans spécialisé dans l'agroalimentaire et cela tombe bien en cette période de lutte pour la consommation ou consommons local en Afrique.
Martial Arnaud Bibi a choisi de donner son propre nom à son vin mais son procédé est encore artisanal et nous rejoignons Elisabeth Hassène au Cameroun.
En famille ou dans les grandes cérémonies au Cameroun, les vins proposés étaient toujours de fabrication étrangère. Mais Martial Arnaud Bibi, jeune ingénieur agronome spécialisé dans l'agroalimentaire, a décidé de changer la donne. Il vient de mettre sur pied sa propre marque de vin. Tout commence en 2016. Devenu diplômé sans emploi après sa formation, Martial se lance dans la recherche des projets à développer pour s'auto-employer. C'est ainsi qu'il se retrouve dans l'industrie vinicole.
Mon parcours m'avait prédestiné déjà aussi dans l'univers du vin parce que j'avais fait des stages dans une société brassicole de la place. Bon, là, je cherche donc qu'est-ce que je peux faire et l'idée me dit, je peux m'essayer à faire du vin de pastèque. Voilà, donc je fais des premières expériences, mais les premières expériences ne sont pas assez concluantes. Donc j'abandonne un peu. Mais en 2020, cette année-ci, avec le Covid, on a vu comment le pastèque sur le marché avait de la peine à s'écouler. Le producteur avait énormément produit, mais n'arrivait pas à écouler tous ces produits. Donc, je dis, j'ai un projet sur lequel je travaille depuis. Alors, pourquoi pas le ressortir et le valoriser. Ça a été une fierté pour beaucoup de producteurs, un soulagement.
C'est dans le marché du Fundi à Yaoundé que Martial Bibi s'approvisionne en pastèque, ingrédient principal de cette mixture issue des terres camerounaises. Les fruits sont ramenés à la maison familiale, dans une pièce aménagée qui sert de laboratoire et d'unité de production. Ici, la main-d'œuvre est essentiellement familiale. La maman de Martial, fière de l'initiative et de la détermination de son fils, met aussi la main à la pâte.
C'est un sentiment de fierté. Vous savez que tout parent aime voir toujours comment son enfant excelle. J'étais fière et de sa découverte. J'ai applaudi du courage. Je l'ai même béni aussi qu'il aille de l'avant. Comme il n'a pas encore la main d'œuvre, je suis obligé de m'y mettre aussi pour qu'il aille un peu vite. Il n'a pas encore assez de moyens. Je suis obligé moi-même de le faire.
Les pastèques sont lavées à grande eau, puis découpées afin de recueillir uniquement la chair rouge. Cette chair qui va par la suite être posée sur le feu dans une grande casserole.
Oui, là, on a environ pour 45 minutes à 1 heure pour les cuissons. Après la cuisson, on va mettre dans ce sauce notamment qui est à préparer, qui est vide. Et c'est ça, une fermentation.
Le processus peut durer près d'une semaine, au bout de laquelle Martial sort le fameux nectar qui fait pâlir d'envie des fins connaisseurs et dégustateurs de vin comme Yolande Boukem, qui a découvert le produit.
J'ai l'habitude de faire les achats chez une dame qui fait uniquement dans les produits camerounais. Je suis entrée là, bon, c'était nouveau. J'ai dit que pourquoi pas déguster. Et je l'ai acheté et j'ai dégusté.
Alors, dites-nous comment vous le trouvez.
Ah non, vraiment, je n'ai pas été déçue de la qualité. Je peux dire que pour un départ, j'étais d'abord très contente de savoir que les Camerounais peuvent faire mieux. Parce qu'on a toujours l'habitude de consommer des produits qui viennent d'ailleurs. Vraiment, ce n'est pas mal. La pastèque, d'abord, c'est un fruit que j'aime beaucoup. J'étais vraiment émue et on ressent vraiment l'odeur de la pastèque. Il y a encore du naturel dans ce vin.
Mais pour en arriver là, les difficultés ont été nombreuses et le sont d'ailleurs encore pour Martial Bibi. Il doit améliorer sa production encore rudimentaire et artisanale.
Les difficultés, j'en ai énormément dans la production même en soi. Je produis vraiment à la main et c'est encore assez rudimentaire. Donc, c'est pas évident de produire de grosses quantités. Mais si nous avons un équipement, des machines qui permettraient de produire des plus grosses quantités, ce serait idéal. Les matières premières, le liège, sont je les importe, les couvre-lièges pareil, et c'est des produits qui ne sont pas facilement trouvables sur le marché camerounais.
Le jeune entrepreneur a du mal à produire 100 litres par semaine, et en vendant la bouteille de vin de 75 centilitres à 3000 francs CFA, Martial ne parvient pas encore à trouver son compte. Malgré tout, il ambitionne de gagner le marché national et même international avec sa marque de vin, Bibi. Pour cela, il compte sur l'appui des opérateurs économiques et le gouvernement camerounais. Elisabeth Hassen à Yaoundé pour la Deutsche Welle.
Fréjus Kenom, que retenir de l'actualité de ce mardi 13 octobre 2020?
La situation en Guinée avec la campagne électorale qui tend vers sa fin, élection présidentielle prévue dimanche prochain.
Merci beaucoup. Vous retrouverez Georges Ibrahim Tunkara pour la seconde édition de nos informations ce soir. Ce sera à partir de 17h temps universel. C'était Fréjus Kenon, mais salé mon ami Longo. Passez une excellente journée.
Tchuss.
Cinéma, concert. Le Shaker vous présente l'agenda culturel blésois et des alentours, un mardi sur deux à 12h30 sur Studio Z 91.10 et sur studioz.fr.
Amis de Blois et d'ailleurs, bienvenue dans le Shaker, votre bon endroit pour tout savoir de l'agenda blésois. Bonjour Mélanie.
Bonjour Lola. Et bonjour Marion, on accueillera Marion tout à l'heure. Alors aujourd'hui, dans cette édition, on vous a préparé dans notre Shaker des concerts, des conférences et du cinéma. Ce soir au lycée Horticole se déroule la conférence « Éblouie par la nuit ».
Oui, en poésie, la nuit éblouissante pourrait nous engager à la rêverie. En biodiversité, cet oxymore nous illustre la pollution lumineuse. La lumière artificielle nocturne possède en effet un pouvoir d'attraction ou de répulsion sur les animaux vivant la nuit, ce qui impacte les populations et la répartition des espèces.
Cette conférence nous invite à mieux comprendre les enjeux et les problématiques vis-à-vis de la biodiversité et du ciel étoilé. Composée en deux temps, cette conférence nous parle de la trame noire ainsi qu'une deuxième partie d'observation en extérieur. Cette conférence est gratuite et elle dure 2 heures, donc rendez-vous ce soir à 20h30 au lycée Horticole.
Pour continuer, l'association Culture du Cœur nous offre son festival Culturel.
Depuis plusieurs années, Terre de Loire Habitat et Culture du Cœur Loir-et-Cher s'associent autour d'un projet commun, faire découvrir aux locataires l'offre culturelle sous un autre angle. L'idée, investir le hall d'immeuble, ce lieu de passage fort en symbole, est un entre-deux, symbole du passage entre la sphère publique, la rue, et la sphère privée, l'appartement. Un moment convivial et festif, dans un lieu insolite, la rencontre des habitants et des habitantes sur leur lieu de vie.
Les spectacles ont lieu les mardis et jeudis de 18h à 19h environ et sont tout public. À l'issue du spectacle, un verre de l'amitié est offert pour favoriser l'échange entre habitants et habitantes et avec les artistes. Nous avons eu le plaisir d'entendre Suzanne et Jaco qui sont de la chanson française. C'était mardi 6 octobre et jeudi 8 octobre.
Et ce soir, nous verrons Duo Taverne, musique folk. Mardi 13 octobre encore, et c'est au 18 Chemin des Landes à Blois. Et jeudi 15 octobre, toujours Duo Taverne, et ce sera 5 Places de l'Europe à Romorantin.
Puis ce sera au tour de Maria Caillas, qui est une clown. Ce sera mardi 20 octobre, 6 rue de Troya à Blois, et jeudi 22 octobre, au 22 rue Charles d'Angoulême à Romorantin.
Et enfin, Duo Latino, chant et guitare. Le mardi 27 septembre au 29 avenue
27
Foch.
27 octobre, si je peux me
27
permettre.
27 octobre, pardon, au 29, cette fois avenue Foch à Blois. Et jeudi 29 octobre au 43 rue Aristide Briand à Vendôme.
On sort ça fait beaucoup d'infos, mais vous retrouverez tout.
Oui, on sort dans l'article. On sort un peu de Blois cette fois-ci pour vous parler d'un spectacle de marionnettes proposé par l'Hectare à Vendôme qui s'appelle Les Présomptions.
L'histoire, c'est un groupe d'adolescents qui flâne au square et erre sur les berges du canal. De l'ennui émergent des inquiétudes, des insultes, des sentiments. Interprétés par des marionnettes à gaines chinoises, ces jeunes ont bien compris les rouages de la société dans laquelle ils rechignent à s'insérer. Ils sont comme des funambules qui peineraient à nouveau leur équilibre, à trouver leur équilibre. Cette série théâtrale de 3 épisodes présentée par le jeune collectif Le Printemps du Machiniste questionne avec légèreté le besoin d'exister et de faire société.
Alors il y a 2 représentations aujourd'hui et demain à 14h30 et 19h à la salle des fêtes de Montoire-sur-le-Loir et jeudi et vendredi aux mêmes horaires mais cette fois au centre culturel de Vendôme.
Et on reste à Vendôme pour vous parler de la 29e édition des Rocomotives qui se déroulera du 17 au 24 octobre. Ce festival est porté par l'association Figure Libre, s'attache à développer et animer la vie culturelle vendômoise autour de musiques actuelles.
Les Rocomotives, c'est à la Toussaint dans de multiples lieux de la ville de Vendôme. Nous aurons le plaisir d'y voir s'y produire des artistes français comme Bertrand Belin et les percussions claviers de Lyon.
Un ciné-concert du groupe vendômois Ropoporose.
Paradoxant, des artistes qui nous viennent de la Belgique.
Et un groupe suédois du nom de J.J. Johansson et plein d'autres. Vos places sont à prendre sur le site de www.figurelib.org.
On va vers Romorantin cette fois. Les Restos du Cœur du Loir-et-Cher organisent une soirée spectacle de variété avec la troupe Sam Enfoiré.
Vous aimez les enfoirés ? Alors vous aimerez Sam Enfoiré. Aujourd'hui, Sam Enfoiré est une troupe d'une trentaine de personnes, musiciens, chanteurs, comédiens, techniciens, tous bénévoles, qui proposent tous les ans un nouveau spectacle de 3 heures, avec une recette qui a fait ses preuves, des tubes de toutes les époques, entrecoupés de sketchs comiques, comme les enfoirés. Et ça marche comme ça depuis 14 ans, le tout dans la joie et la bonne humeur.
Et les profits sont intégralement reversés au Resto du Cœur, et c'est donc le samedi 24 octobre à 20h30 à la Pyramide à Romorantin.
Les lobbies maintenant avec le film Slalom, diffusé le 25 octobre.
Lise, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lise s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous la prise absolue de Fred.
Ce film est diffusé donc le dimanche 25 octobre à 18h et sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice Charlène Favier.
Et le Festival des Joyeuseries fait son retour les 31 et 1er novembre 2020. Les Joyeuseries, c'est le nom de ce festival où l'humour, la musique live et la convivialité sont à l'honneur. Une programmation haut de gamme et haute en couleurs. Tout se déroule dans la salle du Carroir à Saint-Gervais-la-Forêt.
Le samedi 31 octobre, c'est Caroline Vigneault qui monte sur scène à 20h30 avec son spectacle Croque la pomme.
Le dimanche 1er novembre, place à André Manoukian avec le chant du Périnée, c'est à 15h.
Et enfin, le dimanche, toujours à 18h30, c'est Max Bird qui monte sur scène avec son spectacle, l'Encyclospectacle. Les places sont à réserver sur le site www.lesjoyeuseries.com.
Nous avons avec nous Marion de la Fondation du Doute pour nous parler d'une exposition du nom d'After Party et pour nous parler de la Fondation du Doute. Mais avant ça, avant de l'accueillir, une petite pause musicale avec le duo Suzanne et Jaco qui justement sont passés dans le cadre de Culture Hall à Blois et leur titre Mélusine et Firmin.
Sa bicyclette ne marche plus depuis elle se traîne dans les rues. Elle écrit des poèmes à l'encre de Chine, des petits bouts de porcelaine pour les intimes. La 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 des petits bouts de porcelaine pour les intimes. Porcelaine pour les intimes.
Alors, nous sommes de retour sur l'émission du Shaker et nous avons avec nous Marion qui travaille à la Fondation du Doute. Marion, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter, toi, tes fonctions à la Fondation du Doute et la Fondation du Doute, s'il te plaît?
Alors, je suis Marion Louis, je suis chargée de médiation à la Fondation du Doute, qui est un lieu qui a ouvert en 2013, qui est consacré au mouvement artistique Fluxus, dont fait partie Benjamin Vautier, qui est l'artiste qui a imaginé le lieu, qui est à la fois un lieu avec des collections permanentes consacrées à Fluxus, un espace d'exposition temporaire, et puis le café Le Fluxus, qui est un café, un espace d'exposition, et le lieu dans lequel se déroule principalement toute la programmation culturelle et événementielle de la Fondation du Doute.
D'accord, donc en ce moment, vous avez une exposition temporaire qui a été installée il n'y a pas longtemps, c'est ça ?
L'exposition After Party qui a été inaugurée le 26 septembre et qui est présentée jusqu'au 29 novembre, qui est une exposition collective avec 22 jeunes artistes, dont la commissaire est Élodie Bernard. Qui est une exposition qui interroge la notion d'after au sens large, le rapport à la fête bien sûr, mais c'est aussi la question d'une génération d'artistes qui a en moyenne entre 28 et 40 ans et qui est un peu la génération actuelle qui arrive après la fête, après le faste des années 70-80 si on peut dire, et qui questionne aussi les différentes pratiques artistiques, les moyens de travailler, de présenter leurs pratiques.
Ok, bah justement je crois qu'on a, une petite interview d'Élodie, la commissaire, donc on va pouvoir l'écouter tout de suite.
Avec Élodie Bernard, commissaire de l'exposition After Party qui a démarré le 26 septembre 2020 dans le pavillon d'exposition de la Fondation du Doute. Et cette exposition est visible jusqu'au 29 novembre. Élodie, bonjour.
Bonjour Nech.
Merci de nous offrir, d'offrir aux auditeurs de Studio ZEF ce moment un peu particulier et privilégié au sein de l'exposition.
Au cœur de l'exposition.
Avec toutes ces œuvres.
C'est ça.
Alors c'est quoi After Party, Élodie?
Eh ben After Party, c'est un peu le rassemblement des artistes de la génération qui est la mienne, que je suis depuis le début de mes commissariats, et qui est la présentation un peu d'un constat, mais aussi d'une action, d'une jeunesse, prise entre deux eaux finalement, qui arrive après l'émerveillement de la consommation, l'émerveillement de la fête que nos parents ont faite, du travail qui coulait à flot. Et puis aujourd'hui, on est une génération qui doit se nourrir de tous les restes finalement. Donc After Party, c'est un peu ça, c'est un peu le constat de tout ce qui a été avant.
Est-ce qu'on a affaire à une exposition politique ?
Alors, ce ne sont pas des œuvres d'art, comme on dirait, politiques, mais l'exposition, elle ne peut pas faire abstraction du côté un peu engagé, finalement, des artistes qui sont présents de par leur, pas activisme, mais résistance plutôt. La résistance à une esthétique particulière, la résistance à un monde particulier, la résistance à poursuivre et à créer et à continuer de créer.
Est-ce que tu veux bien nous parler justement de ces artistes ? Tu évoques tout à l'heure les différents commissariats que tu as pu faire, du moins que tu suis ces artistes déjà depuis quelques temps. J'imagine qu'il a fallu resserrer aussi faire des choix.
Il a fallu faire des choix, effectivement, puisque là, il y a 22 artistes qui sont présentés. Et puis, c'est une présentation un peu non exhaustive, finalement, puisque si j'avais eu 1000 mètres carrés, j'aurais bien mis 1000 mètres carrés et une trentaine d'artistes supplémentaires, puisque c'est une génération qui est grandissante et qui est sur différents pays et différentes régions. C'est pas seulement les artistes français dans l'exposition. Il y a des artistes suisses, slovaques, belge et français. Donc déjà, ça montre un petit peu, on aurait pu mettre estonien, tous ces gens-là. Quand même. C'est des gens avec qui je travaille depuis un long moment et qui sont souvent testés sur des petites expositions. Alors quand je dis tester, c'est pas du tout péjoratif. C'est pour voir si le travail est fort et que le travail fait résonner des choses en nous, nous permet d'avoir un dialogue introspectif un petit peu. Et cette notion d'introspection, on la retrouve dans l'exposition beaucoup, à travers les œuvres de Xenia Lucie Lafely, d'Ariane Loz aussi notamment, de Bertrand Dezoteux, qui sont des œuvres qui présentent souvent des humains qui ont un dialogue un peu intérieur sur leur être au monde par rapport aux dictats d'une société, par rapport à, si je prends le travail d'Ariane Loz en exemple, c'est une vidéo où elle s'autofilme dans des mises en scène, c'est le banquet, et elle joue plusieurs personnages, mais qui sont des stéréotypes même et des archétypes même de la femme du 21e siècle. Alors, d'une réussite sociale particulière. Il y a celle qui fait du sport, celle qui est overbookée, celle qui est une grande dame, qui reste à la maison, et puis elle rejoue tous ces personnages. Donc c'est vraiment... Il y a immensément de choses à venir voir à After Party.
Alors justement, tu es déjà un peu rentré dans un focus de certains artistes, on va y revenir, mais juste avant ça, est-ce que tu peux me décrire cette ambiance quand on rentre dans le pavillon ? L'ambiance...
Ah oui, elle est particulière, effectivement, puisque le pavillon, c'est un grand cube en verre à la base, et là, on a carte blanche pour tout inventer à l'intérieur. Donc, j'ai volontairement découpé l'espace en trois salles. Comme je dis, c'est trois salles, trois ambiances, puisqu'on parle de la fête, on essaye d'avoir ces ambiances différentes, comme quand on va en boîte de nuit, finalement. Donc, on arrive avec un sas, on commence par une vidéo qui est le prologue de l'exposition dans une salle noire, une vidéo qui nous impacte de par son rythme et par le flux des images qu'on se prend, et puis la grandeur aussi de l'écran, puisqu'on est quand même dans un face-à-face, on est en immersion dans cette pièce, même le recul est impossible. C'est une pièce d'Émilie Brault et Maxime Marion. Ensuite, on entre dans une seconde pièce qui est là un blanc, presque comme si on se prenait un éblouissement total à la suite de cette autodestruction qui est visible dans la vidéo d'Émilie Brault et Maxime Marion. Mais c'est pas un blanc pur, c'est un blanc pailleté, parce qu'il y a des réminiscences quand même de vie qui vont nous amener après dans un troisième espace qui est un espace complètement vert. Alors entre le vert fluo et le fond vert, parce qu'il nous permet de tout réinventer. Donc c'est trois espaces volontairement délimités. Et puis ce sont pas des espaces qui sont coupés de manière conventionnelle. Ce ne sont pas des espaces rectangulaires. C'est un espace qui est un peu alambiqué avec des meurtrières qui nous permettent de voir ce qui va se passer après, tout en restant dans notre posture de celui d'avant. Comme ça, nous, on effectue le choix. Et ces choix, c'est des notions qu'on retrouve dans l'after party. Et c'est justement parce qu'il y a la notion de choix qui est au cœur de l'after que c'est l'after party qui m'intéressait de traiter à travers le travail des artistes.
Super. Et maintenant, tu nous emmènes à la rencontre de deux œuvres et de deux artistes.
Deux œuvres et deux artistes, c'est parti. Allez, on va commencer par une œuvre olfactive, puisque After Party, c'est aussi ça. L'idée, c'était de montrer la diversité de la création contemporaine actuelle dans toutes ses formes, qu'elle soit olfactive, visuelle, auditive. Alors, on peut aussi toucher un petit peu, on a le droit de toucher certaines pièces, mais il nous manque le goût encore, on n'a pas pu avoir le goût.
Alors là, je décris ce que je vois. Vas-y. Et puis tu réagis et tu complètes. Alors moi, je vois
deux tas de bitume qui sont sur de la terre avec des fers à souder
plantés dedans
et puis aussi un jet d'eau qui vient
un brumisateur.
Et il y a une odeur.
Ouais. Alors, toutes les 30 minutes, le brumisateur se met en route. C'est une œuvre de Guilhem Robichou. Cette œuvre-là, elle montre complètement tout le dispositif mécanique, puisque l'idée, c'est pas de jouer l'artifice, mais d'accepter l'œuvre telle qu'elle est. Et puis, toutes les 30 minutes, donc, ça vient se répandre sur le béton, sur le bitume qui chauffe. Et l'odeur de goudron ressort comme la pluie après l'orage. L'idée, c'est ça, c'est de nous replonger dans un paysage qui est le nôtre aujourd'hui, dans une posture un petit peu romantique, où on se place pour regarder et accepter la beauté de ce qui nous entoure aujourd'hui, la manière dont on a façonné le monde, c'est notre réalité. Donc Guilhem, il embaume comme ça, c'est un peu la touche olfactive de l'exposition, même si... Et on est dans une brutalité aussi, quelque chose qui est explosé. C'est quelque chose qui est éclaté, ça fait des monticules, comme si quelque chose sortait du sol et on ne sait pas ce qui va se passer après.
Et l'artiste a été donc récupérer cette terre et ce bitume dans les rues de Bordeaux.
Oui, c'est vrai, c'est bien. Tu fais bien de le signifier parce que c'est toute là l'importance de son travail. Cette œuvre ne peut pas avoir de sens si c'est pas du bitume qui est récupéré sur le lieu de l'exposition ou juste autour du lieu de l'exposition. Puisque l'idée, c'est d'apporter l'odeur de la ville ou du lieu dans lequel elle est présentée. C'est pas d'apporter n'importe quel morceau de. C'est une œuvre in situ finalement.
Une deuxième œuvre.
Alors là, on était dans la salle un peu. Dans la salle des l'éclatement, la salle qui brille, la salle à paillettes, et je propose qu'on aille dans la salle verte, comme ça.
Alors les éditeurs peuvent entendre, hein, on circule dans la pièce et puis il y a du son, il y a plein de choses à.
Alors je propose qu'on s'arrête devant la peinture monumentale de Julien Desmontiers. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Écoute, moi je vois une répétition de vautours je vois une scène.
Ouais.
Je vois une scène un peu. Un peu macabre avec moi de ce que je perçois, ces taches rouges, ces oiseaux qui sont en observation, dans l'attente. Et de chaque côté, en fait, c'est un effet miroir.
Oui, complètement. C'est comme un test de Rorschach. En fait.
Voilà.
Comme s'il avait travaillé par tampon et il travaille de toute façon par monotype. Donc ce qu'on a devant nous, c'est une peinture de 4 mètres par 3 qui est un peu incurvée. Non, concave.
Concave.
Concave plutôt, pardon. Et elle est exactement traitée dans les tonalités orange, un peu avec des rouges sanguinaires, du rose fluo, du bleu. Alors ce qui est assez agréable, c'est que ce sont des couleurs qu'on voit très rarement chez les peintres, puisque l'orange, c'est quand même une couleur agressive. Et sur ce fond qui est très expressif, très texturé, on vient apparaître des monotypes, donc des impressions de vautours. C'est pour ça qu'ils sont altérés au fur et à mesure, parce que Julien, il travaille par tampon. Il peint son motif sur un écran et cet écran, il vient le tamponner sur la toile. Donc on n'a plus la touche de l'artiste, en tout cas pour cette série-là, parce que je suis allée le visiter dans son atelier et il y a une acceptation de la touche de l'artiste, mais pour celle qui est là et qui nous englobe, nous spectateurs, on est face à des vautours qui nous regardent en miroir. Et alors si j'ai choisi celle-ci, c'est parce que c'est le vautour qui arrive après la fête. Et comme on parle d'after party, le vautour, c'est la charogne, c'est celui qui vient récupérer ce qui reste, mais c'est aussi celui qui est un peu, qui est capable d'aller de l'avant et qui est capable d'aller dans les pires coins pour pouvoir réussir à avoir son truc. Donc c'est un peu la métaphore aussi des artistes présents dans cette exposition. Ce ne sont pas des vautours, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce sont ceux qui ont la hargne. Et je te propose
Qui sont vigilants.
Et qui sont vigilants, parce qu'ils font attention, les vautours. Hein, ils ne vont pas n'importe où non plus.
On sent cette vigilance.
Ouais.
Et si on sortait, parce que l'exposition After Party, elle dépasse les limites du pavillon.
Et oui, elle est agrémentée de performances. Comme on a pu voir le 26, il y avait la performance de The George Tremblay Show, un duo qui était invité à produire une performance pour le vernissage et qui produisent aussi une performance pour le 14 novembre, c'est la nuit des musées. Et puis il y a aussi Trapier du Porté qui était aussi en résidence et qui ont produit eux une performance et une sculpture qu'on va aller voir maintenant, c'est ça ?
Ouais.
Et qui seront là dès vendredi. Vendredi,
dès vendredi et samedi.
Et samedi 10 pour samedi le 17. Focus complet sur leur pratique.
Eh bien,
et activer la performance.
On y va tout de suite.
C'est parti.
Élodie, on est dans la cour du doute, devant le mur des mots de Ben. Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend le son étouffé qui sort d'une BMW, qui est un peu ce symbole, une BMW bleue un peu vieillissante, qui est ce symbole par excellence de la liberté de la jeunesse des années 80-90. Et elle est complètement fermée. Dessus, il y a écrit « Trapier du Porté, art contemporain », un sticker qui est un peu passé, qui a mal collé. Et puis, il y a une fumée qui ne nous permet pas de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand on tourne autour, on entend cette musique un peu vrombissante d'une techno étirée. Et puis on a cette fumée, donc on ne sait pas face à quel objet on est. Donc c'est un peu le confinement inversé, où on est à l'extérieur. On ne sait pas s'il y a des gens à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas si c'est un after qui a mal tourné, des jeunes en train de faire un aqua, comme on a pu faire refoulé de soirée sur le parking de la Foire Fouille. On ne sait pas. Donc on a à la fois un objet mystérieux, mystique, et un objet qu'on observe comme si c'était quelque chose qui était... à des années-lumière de nous, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Un ovni, voilà, un ovni qui va être activé ce week-end, dont on va voir, on va connaître le fin mot de l'histoire.
On en fait le tour.
On en fait le tour.
Que nous dit le cartel subtilement installé sur
un parpaing?
Eh
bien, il nous donne le titre « L'eau salée m'a quitté pour l'océan » et que c'est un objet performatif qui sera activé par les artistes le 10 octobre. C'est très poétique.
Trapier du Porté, art contemporain. Rendez-vous samedi 10 octobre, mais il me semble que lorsque ce son sera diffusé, la performance sera déjà passée.
Eh bien, vous verrez
passée.
La restitution.
Voilà, la restitution
mais
sera à voir.
Vous aurez l'occasion de venir nous rencontrer à d'autres rendez-vous comme le 31 octobre. Où il y a une performance qui sera activée par The George Tremblay Show, et le 14 novembre.
Et bien sûr, venir voir l'exposition in situ dans le pavillon avant la fin, c'est-à-dire le 29 novembre.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup.
Merci Élodie Bernard, commissaire de l'exposition After Party. Et puis prochainement aussi, il y a de l'actualité, autre actualité à Orléans.
À Orléans, il y a Living Cube, comme tous les ans, 4e édition, une dizaine d'artistes qui présentent une œuvre dans la maison, sur rendez-vous et sur réservation.
Quand tu dis dans la maison, c'est dans ta maison.
Ah oui, dans ma maison, bah oui, on entre chez moi, voilà, c'est pas fréquent d'aller chez le commissaire directement pour rencontrer les œuvres. Mais c'est d'ailleurs là-bas où on s'est rencontrés la première fois.
Tout à fait. Merci Élodie, à bientôt.
Merci.
Alors, on est toujours chez Studio Zef pour l'émission de l'agenda culturel de Blois et des alentours, le Shaker. Toujours avec Marion, chargée de médiation à la Fondation du Doute. Marion, est-ce que tu peux nous présenter les prochains événements de la Fondation du Doute ?
Alors oui, toujours dans le cadre d'After Party, je vous donne les événements qui sont programmés d'ici la fin de l'exposition. Le prochain rendez-vous lié à After Party a lieu le samedi 31 octobre. En fait, il y a une série de focus autour d'artistes différents de l'exposition. Donc le 31 octobre, l'après-midi, s'appelle « Tous les moyens sont bons ». Elle débutera par une conversation avec Aziadeh Baudouin de Talek et moi-même. Alors les conversations s'inscrivent dans un cycle de médiation plus large qu'on a mis en place à la Fondation du Doute depuis février, où les invités choisissent une œuvre, un artiste. Je présente l'œuvre, l'artiste choisit, et ensuite l'invité a carte blanche pour évoquer cet artiste, cette œuvre en écho à son propre travail. Conversation. Ensuite, il y aura toujours le 31 octobre, une projection du film Zootrope de Bertrand Dezoteux, qui est un des artistes présentés dans le pavillon avec une autre de ses vidéos, suivi d'un échange autour de son travail, et puis l'inauguration du cycle Tête d'affiche dans le café Le Fluxus, qui est un espace d'exposition dans le café, consacré cette fois au duo d'artistes Georges Tremblay Show, ainsi que les éditions Born and Die. Dernier rendez-vous de l'exposition, le 14 novembre, donc qui est la date de report de la Nuit européenne des musées. Donc toujours avec une nouvelle tête d'affiche consacrée à François Prost, un des artistes de l'exposition toujours. Une conférence par la commissaire de l'exposition, Élodie Bernard. Une autre présentation du travail d'Aziadeh Baudouin-Talek, qui revient donc le 14 novembre.
une visite de l'exposition et puis une performance dans la ville par The Georges Tremblay Show qui sera une restitution de la résidence qu'ils ont effectuée à la Fondation au mois d'août. Et puis, en dehors de la programmation liée directement à After Party, pendant les vacances de la Toussaint, je propose à destination des familles, donc les enfants et leurs parents, un autre membre de leur famille, trois après-midi par semaine, donc le mercredi, le jeudi et le vendredi, donc 21, 22, 23 octobre, 28, 29 et 30, un atelier consacré au mail art ou art postal, qui est une des formes artistiques développées par les artistes Fluxus. Donc un espace est consacré au mail art dans les collections de la Fondation, et où donc les enfants et leurs familles imagineront une